vous le savez, l'écrasante majorité des êtres humains, depuis Adam et Ève, jusqu'à notre époque, ont été séduites et aveuglées par Satan quant à la connaissance du vrai Dieu et du plan de salut pour l'humanité et du message aussi de l'Évangile. Le message que Jésus-Christ est venu prêcher pendant 3 ans et demi. Le christianisme moderne, qui est censé enseigner le message de l'Évangile du Christ, est divisé en de multiples factions, avec ses formes catholiques, orthodoxes, protestantes. Et au sein de chacune d'entre elles, en particulier dans le protestantisme, il existe une pléthore de dénominations diverses. Et la majorité d'entre nous, nous sommes nés en étant instruits dans l'une ou l'autre de ces formes de religion chrétienne de contrefaçon, jusqu'à ce que Dieu nous appelle à faire partie de son petit troupeau, l'Église du Dieu vivant. Maintenant, comment pouvons-nous savoir ce que nous croyons est réellement la vérité? Et que ceux qui ne croient pas la même chose que nous sont dans l'erreur. M. Weston, dans son éditorial du Living Church News de septembre-octobre 2024, nous donne la réponse, qu'il résume à la fin de son article, et je vous cite. « Prouver que Dieu existe est la première étape de tout voyage visant à savoir si nos croyances sont correctes. Dans un monde de confusion et de discorde. Et nous pouvons le constater, c'est vraiment ce qui se passe autour de nous. Prouver que la Bible est la révélation de Dieu et qu'elle explique le dessein de Dieu, vraiment le plan de Dieu pour l'humanité, est la deuxième étape. Ces deux étapes sont nécessaires pour trouver le sens de la vie, le vrai but de la vie, le but premier, je dirais, de notre existence. Mais, comme nous le comprenons, il ne s'agit pas d'une question d'intelligence supérieure ou de droiture humaine, mais plutôt de la sélection miséricordieuse de Dieu. Notre rôle est de répondre à cet appel. » Fin de citation. Alors, comme vous le savez, depuis que nous sommes venus à l'Église de Dieu, nous comprenons que le plan de Dieu nous est révélé dans les 7 fêtes annuelles que nous répétons ou que nous célébrons année après année. Et aujourd'hui, nous célébrons la merveilleuse fête du dernier grand jour, qui est une bénédiction pour tous les êtres humains qui ont vécu sans connaître le but de Dieu, le but premier de leur existence. Et le titre de mon sermon aujourd'hui est « La bénédiction du dernier grand jour ». La bénédiction du dernier grand jour. Maintenant, pourquoi j'appelle cela la bénédiction du dernier grand jour? Parce que ce jour nous apporte une réponse à l'une des plus grandes questions que la majorité des religions ignorent. Ces religions censément chrétiennes, ce sont des religions de contrefaçon que Satan a inspirées. Et cela me fait penser à la brochure « Le christianisme contrefait de Satan » qui nous aide à comprendre comment le monde en est venu à adorer un faux Christ. M. Weston, encore dans son éditorial du Living Church News, que je vous ai parlé tout à l'heure, présente la fameuse question ignorée des grandes religions. Il la présente ainsi. L'une des grandes questions que devraient se poser ceux qui prétendent suivre le Christ est de savoir ce qu'il advient des milliards de personnes qui n'ont jamais accepté le Christ et dont beaucoup n'ont même jamais entendu parler. Il est choquant de constater à quel point certains se proclamant chrétiens semblent désireux de les voir se tordre dans un feu ardent de torture éternelle. Et il est choquant de voir à quel point ils se mettent en colère lorsque la vérité leur est montrée. Les gens qui se prétendent chrétiens, qui veulent voir souffrir d'autres personnes pour l'éternité. Mais comme nous savons, c'est une fausseté que Satan a introduite. Je continue un petit peu la citation de M. Weston. Cependant, le dernier grand jour donne la seule réponse biblique à la question de savoir comment Dieu met en œuvre son plan pour ces milliards de personnes. Et plus loin, il ajoute, combien nous devrions être reconnaissants pour la vue d'ensemble que nous offrent les jours saints de Dieu. Fin de citation. Et c'est vrai que nous avons la bénédiction de connaître le plan de Dieu, de connaître la signification de chaque fête annuelle de Dieu. Avant d'aborder comme telle l'explication du dernier grand jour, permettez-moi de vous faire une petite publicité, en rapport avec le plan de Dieu, bien sûr. Vous voyez cette magnifique brochure, « Les jours saints, le magistral plan divin ». Eh bien, je vous recommande de l'étudier en détail. Vous savez, récemment, dans le Living Church News encore de septembre-octobre, M. Weston parlait de son ami et collègue, le regretté M. Richard Ames. Et en voici un court extrait. Je fais un petit peu une divergence, une diversion dans mon sermon, mais c'est important que vous compreniez ce point-là. M. Weston écrivait ceci. M. Ames nous recommandait sans cesse de ne pas négliger l'évidence. L'évidence, c'était le plus souvent ce que l'Église avait déjà écrit sur le sujet. C'est un bon conseil, non seulement pour le ministère, mais pour tous les membres. Pour tous les membres, ça c'est vous et c'est moi. Continue. Nous ferions tous bien de prouver ce que nous croyons en lisant et en étudiant ce que le Christ a mis à notre disposition par l'intermédiaire de son Église. M. Ames a compris que l'Église est le pilier et le fondement, le rempart de la vérité. Fin de citation. Et je vous recommanderais aussi d'écouter une émission tout à fait spéciale. Mon épouse et moi, hier soir, nous avons écouté cette émission-là. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur le site du Monde de demain. Richard Ames, enseigner la justice à la multitude. Et je vous laisse découvrir les trois personnes qui ont fait le doublage en français. Et c'est une émission où, justement, la citation que je vous donnais, qu'on doit ne pas oublier ce qui est évident, est mentionnée dans l'émission. Et ça vaut vraiment la peine que vous preniez le temps de l'écouter. Moi, je l'ai écouté avec un très grand plaisir, mon épouse également, et nous comptons l'écouter de nouveau. Ça vaut la peine aussi que nous tournions vers un premier passage des Écritures que M. Ames a cité en disant que l'Église est le pilier, le fondement de la vérité. Et vous savez probablement où je m'en vais, dans 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée 3. Nous allons lire les versets 14 et 15. C'est Paul qui écrivait ici à Timothée. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si tu tardes, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Voyez-vous? L'Église est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Et c'est ce que M. Ames a enseigné pendant près de 60 ans, si je me souviens bien. C'est un exemple vraiment extraordinaire. Alors, actuellement, l'Église Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Il en sera de même dans le futur, quand les gens glorifiés de la maison de Dieu régneront avec le Christ sur la terre. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà compté le nombre de brochures françaises produites par l'Église Dieu vivant, ou même pour ceux qui écoutent en anglais. Mais en comptant l'autobiographie de M. Meredith en traduction actuellement et la brochure probablement à venir qu'on nous avait parlé, le mythe de l'enlèvement secret, nous arrivons au chiffre de 42. 42. Si nous étudions une brochure par mois, cela nous prendra 42 mois ou 3 ans et demi. Alors, nous savons qu'il nous faut étudier sérieusement la parole de Dieu, la Bible, mais ne négligeons pas l'évidence qui nous aide à la comprendre. Je viens de vous parler des brochures, mais en même temps, si vous n'avez pas encore complété votre cours de Bible ou si vous n'avez jamais refait votre cours de Bible, c'est le temps de le faire. Nous sommes sans doute dans le dernier droit et nous devons nous rapprocher vraiment de Dieu. Mes amis, et c'est un terme que j'aime utiliser parce que M. Hume utilisait ce terme-là, il disait souvent « mes amis ». Et je trouve ça tellement affectueux que nous sommes amis les uns des autres. Et le Christ même a dit « je vous appelle maintenant mes amis ». C'est un terme affectueux et j'aime l'utiliser pour cette raison. Mes amis, nous approchons du jour glorieux du retour de Christ et de l'établissement de son royaume sur terre. Ne négligeons pas les outils mis à notre disposition gratuitement. Gratuitement. Parce que des gens ont payé déjà pour ça. Et nous, nous payons maintenant par nos dîmes et nos offrandes pour que d'autres reçoivent ces mêmes outils. Bon, après avoir fait un bon détour, je reviens à mon sujet. Mais je crois que c'est important de vous faire voir l'urgence des temps où nous vivons. Si nous voulons non seulement être des dirigeants dans le millénium, mais également pour participer à la bénédiction du dernier grand jour, la bénédiction de revoir nos êtres chers qui se sont endormis. Vous savez, dans la Bible, une bénédiction est d'abord un acte de Dieu qui enrichit parfois physiquement ou spirituellement, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin comme c'est mentionné dans les proverbes. Il veut vraiment le bien de tous les hommes. Il veut que tous soient sauvés. Vous savez, toutes les personnes que vous avez rencontrées en allant au restaurant à la fête ou en faisant les excursions, Dieu veut que ces gens-là soient sauvés. Allons en 1 Timothée 2. On était dans 1 Timothée 3. On va aller à 1 Timothée 2, verset 3 à 6. 1 Timothée 2, verset 3 à 6. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour être sauvé, il faut commencer, premièrement, à connaître la vérité, apprendre la vérité de Dieu. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Jésus-Christ est mort, ressuscité, pour que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et contrairement à ce que l'écrasante majorité des prêtres ou des ministres protestants enseignent, aujourd'hui n'est pas le seul jour de salut, parce que l'ensemble de l'humanité, depuis ses tout débuts, n'a jamais eu accès à la vérité. C'est-à-dire avoir une vue d'ensemble des connaissances fondamentales au sujet de Dieu, de son plan de salut, pour prendre une décision éclairée sur la voie qu'ils ont à choisir ou à prendre. Vous pourrez consulter une autre de nos brochures qui explique bien ce sujet. Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut? Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut? Maintenant, voyez avec moi 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, allons voir les versets 22 et 23. 1 Corinthiens 15, versets 22 et 23. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, ou chacun en son temps, selon la bonne compréhension qu'on a des Écritures. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alors, tous les êtres humains seront appelés par Dieu pour connaître la vérité. Mais chacun en son temps, ou devrais-je dire selon le temps de Dieu, selon la planification que Dieu a pour chaque être humain. Parce que Dieu se soucie de chacun des êtres humains sur la planète. Il est facile de concevoir, de comprendre que les survivants de la grande détresse entendront parler de la vérité par leur Sauveur à son retour glorieux sur terre, et que les gens désireront connaître la vérité, suivre les voies de Dieu et s'engager dans le processus du salut après avoir éprouvé tant de souffrances. Après la souffrance, on devient comme plus réceptif. Il y a aussi naturellement le fait que Satan va avoir été enfermé. Mais comment les morts peuvent-ils entendre la vérité et être sauvés? Comment peuvent-ils entendre parler de la vérité par leur médiateur, Jésus-Christ, alors qu'ils reposent dans la poussière de la terre, dans le fond des océans pour certains, ou que leur corps a été brûlé, réduit en cendres et s'est envolé en fumée? Où est la bénédiction de Dieu dans ces cas-là? Le dernier grand jour donne la réponse biblique à la question de savoir comment Dieu met en œuvre son plan de salut pour ces milliards de morts. Probablement 50 milliards de morts et plus, comme on l'a vu dans un sermon précédent. Alors, dans une vision prophétique incroyable, l'apôtre Jean écrivit à propos de cette occasion unique d'obtenir le salut pour tous ceux qui sont déjà décédés sans jamais avoir été appelés par Dieu dans l'histoire. Et vous savez que nous pouvons retrouver ces informations dans Apocalypse 20. Apocalypse 20. Nous allons voir en premier les versets 4 et 5. Apocalypse 20, versets 4 et 5. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors il s'agit ici de la première résurrection. Les morts en Christ vont premièrement ressusciter, suivis des vivants qui gardent les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus. Donc, vous et moi, si nous sommes fidèles jusqu'à la fin. Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. La première résurrection se réfère ici au verset 4, comme nous le comprenons facilement. Alors, les autres morts reviennent à la vie après le millénium, donc après le règne de 1000 ans de Jésus-Christ avec ses saints sur la terre. Dans le verset 5, le mot « vie » de ce verset vient du grec « anazao ». Anazao, qui s'écrit A-N-A-Z-A-O, qui signifie « vivre de nouveau » ou « reprendre vie ». Mais non pas naître de nouveau, en tant qu'être spirituel, comme ceux de la première résurrection. Ce mot a une signification différente. Voyons la suite de la vision de l'apôtre Jean, maintenant, au verset 11 à 13. Voici ici ce que Jean a vu. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ici, il faut comprendre que c'est le Christ qui est sur le trône, puisque Dieu le Père viendra seulement sur la nouvelle terre pour habiter avec sa famille spirituelle dans la nouvelle Jérusalem. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Comme vous savez, les livres, c'est biblion en grec, biblion. Ou, à ce moment-là, ça voulait signifier les rouleaux, comme à l'époque de l'apôtre Jean. Aujourd'hui, on a les livres de la Bible. Et ces livres-là seront ouverts à la compréhension. Les gens qui n'ont même jamais eu de Bible en recevront une. Ils l'ouvriront pour la comprendre pour la première fois. Beaucoup de travail ici en passant pour les imprimeurs. Alors, si vous voulez diriger dans cette fonction les plus jeunes, pour préparer les Bibles pour ce grand moment. Alors, et vous savez que le livre de vie, c'est le livre où Dieu inscrit le nom de ceux qui sont baptisés. Et à partir de ce moment-là, le défi est de persévérer jusqu'à la fin pour que leur nom, comme le nôtre, doit rester écrit dans le livre de vie si on veut hériter de la vie éternelle. Et si les morts, comme on vient de lire dans le verset 12, se tiennent devant le trône, cela implique qu'ils sont ressuscités à la vie physique, comme nous l'avons vu au verset 5, parce que c'est une vie physique qu'ils reçoivent à la deuxième résurrection. Ainsi, pour la première fois, Dieu ouvrira l'esprit et le cœur des individus pour comprendre la Bible. Et, comme je venais de vous le dire, après en avoir reçu une pour la majorité des 50 milliards qui sont décédés, ils pourront commencer à la comprendre et à être instruits selon ce qui est écrit dans les pages de la Bible. Ils auront leur première et seule opportunité d'obtenir le salut et d'avoir leur nom inscrit définitivement dans les livres de vie s'ils persévèrent. Au cours de cette période de jugement du grand trône blanc, Satan et ses démons auront été au préalable définitivement bannis. On est dans l'Apocalypse, regardez le verset 10. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où avaient été jetés la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et juste un petit peu avant Apocalypse, si vous allez dans Jude au verset 6, Jude au verset 6. Qui nous est dit ici. On voit qu'il s'agit de Dieu qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Alors, ils vont être enchaînés éternellement. Alors, Satan et ses démons ne pourront plus jamais susciter de nouvelles révoltes, ni influencer et garder dans la séduction les gens qui seront ressuscités lors de cette grande résurrection. Je vous rappelle que les morts qui se tiendront devant leur Créateur sont tous ceux qui sont décédés sans jamais avoir connu ou accepté le véritable évangile de Dieu. Et à cette époque, des dizaines de milliards de personnes qui auront vécu et qui seront décédées au cours de l'histoire auront accès pour la toute première fois au Saint-Esprit de Dieu, Et lors de ce temps d'appel pour eux, ils pourront saisir parfaitement le plan de salut de Dieu qui leur sera offert pour la première fois. Je répète, cette résurrection à la vie physique ne constitue pas une autre chance de salut comme certains le croient. Ce sera leur toute première opportunité de connaître réellement leur Créateur. Maintenant, c'est intéressant de voir comment Dieu va ramener à la vie ces milliards de personnes qui sont mortes. Et la grande prophétie d'Ézéchiel 37 nous donne une description incroyable de cette grande résurrection générale. Et j'imagine que la plupart d'entre vous avez déjà lu cette grande prophétie d'Ézéchiel 37. C'est pourquoi je vais vous donner les versets qui concernent toute la prophétie, c'est Ézéchiel 37, 1 à 14, Ézéchiel 37, 1 à 14, mais nous allons lire une partie seulement. Nous allons prendre, par exemple, pour commencer, les versets 4 à 6. Alors Dieu parlait à Ézéchiel et lui dit, « Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. » Et on voit ici que le Christ va dire, « Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. » Et regardez la fin du verset. « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ici, il ne faut pas oublier que c'est une vision qu'Ézéchiel a. Et même s'il parle d'os, ça couvre aussi tous ceux qui sont morts brûlés, noyés, que les os sont disparus. D'ailleurs, ceux qui sont morts depuis des milliers d'années, il ne reste rien de leurs os. À moins d'avoir été vitrifiés dans un volcan ou quelque cataclysme, je dirais. Maintenant, les versets 12 à 14. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est encore le Christ ici qui parle. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Alors ces gens-là vont recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alors, c'est une prophétie vraiment merveilleuse. Et on peut rêver du moment où on va revoir nos êtres chers disparus. Ces Israélites ressuscités à la vie physique vivront dans un nouveau jardin d'Éden implanté durant le millénium. Et ils commenceront à découvrir le seul vrai Dieu, cette fois-ci sans l'influence de Satan et de ses démons, pour les tromper. Comme durant le millénium, David sera le roi des tribus d'Israël ressuscité. On est dans Ézéchiel 37, voyons les versets 25 et 26. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Alors, ils auront l'occasion de se tourner pleinement vers l'avenir magnifique qui leur est réservé, celui de faire partie de la famille divine en tant que fils et filles de Dieu. La vérité divine leur sera révélée, leur sera enseignée pour la toute première fois. Leurs yeux verront ceux qui les instruisent, tout comme l'auront vécu les survivants de la Troisième Guerre mondiale au début du millénium, comme ça nous est expliqué dans Ésaïe 30, versets 19 à 21. Ésaïe 30, 19 à 21. Je ne vais pas m'y référer parce qu'on en a beaucoup parlé durant la fête. Vous allez entendre la grosse voix de M. Arsenault peut-être derrière vous. Ces gens-là vont entendre des voix, vont leur dire « Voici le bon chemin, marchez-y ». Imaginez ces gens ressuscités qui sont morts dans les horreurs de la guerre, des famines, des meurtres, brûlés, torturés, noyés dans le naufrage du Titanic, morts dans leur World Trade Center, en Ukraine actuellement, au Moyen-Orient, et j'en parle. Ne ressentiront-ils pas au départ une certaine angoisse, de la peur et une surprise empreinte de stupeur de voir que le monde est merveilleux autour d'eux? Est-ce que je rêve? Qu'est-ce qui se passe? Mais combien ce sera réconfortant de voir des êtres qui veulent vraiment leur bien et d'entendre des voix qui vont les rassurer, de voir des personnages tels que David pour l'Israélite, mais aussi Noé pour ceux qui ont vécu à son époque, Abraham, Isaac, Jacob pour ceux qui ont côtoyé ces gens-là, Moïse avec tous les Égyptiens, M. Armstrong, M. Appartien, M. Hain et beaucoup d'autres. La voix rassurante qui leur dira « Voici le chemin, marchez-y ». Mais Dieu parle-t-il uniquement des Israélites dans Ézéchiel 37 ou s'adresse-t-il en même temps à d'autres nations comme je viens de faire allusion? Souvenez-vous que Dieu ne fait pas exception de personne, donc il donnera à tous la même opportunité. Allons dans Ésaïe chapitre 25 et au verset 7. Ésaïe 25 et le verset 7. Et sur cette montagne, le gouvernement de Dieu, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Ce verset fait référence à l'époque du millénium où le gouvernement de Dieu anéantira le voile sur tous les peuples. Mais Dieu anéantira aussi le voile pour les milliards de personnes qui seront de la deuxième résurrection. Toutes les nations, même ceux de Sodome et Gomorre, Tyr et Sidon, les Égyptiens, comme je vous ai mentionné, et le Pharaon du temps de Moïse, les Philistins que David a combattus, les Babyloniens du temps de Nabuchodonosor, Alexandre le Grand et ses armées, réellement tous les morts qui n'ont pas eu leur opportunité de salut, seront ressuscités au jugement du grand trône blanc. Mais avons-nous d'autres preuves que cette résurrection physique d'Ézéchiel 37 concerne d'autres nations? Et qui est mieux placé que Jésus-Christ lui-même pour répondre à cette question? Nous nous référons donc à certaines déclarations de Jésus dans lesquelles il a dit que les peuples de Sodome, Gomorre, Tyr et Sidon, ceux de Ninive et ceux qui vivaient à son époque seront tous ressuscités en même temps lors du jugement du grand trône blanc. Nous allons voir un premier exemple dans Matthieu au chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Nous allons lire les versets 20 à 24. Matthieu 11, 20 à 24. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Verset 22, « C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Jésus nous dit que s'il s'était rendu à Sodome avec les anges pour accomplir des miracles similaires à ceux qu'il avait accomplis dans les villes de Judée ou de Galilée, ces gens se seraient repentis. Sodome n'aurait pas été détruite. Lot aurait vu sa femme et ses gens mariés être sauvés. Et la ville existerait encore à l'époque du Christ et qui sait, peut-être même encore aujourd'hui. Mais ce n'était pas dans les plans de Dieu pour les gens de Sodome et Gomorrhe à cette époque-là. Mais Jésus fera preuve de miséricorde envers tous. Mais les villes païennes trouveront leur période de jugement plus supportable que ceux qui ont personnellement vu ces miracles, les miracles qu'il a accomplis et entendu ses enseignements. Et ils ont rejeté la bonne nouvelle qu'il leur annonçait. Ils l'ont même rejeté lui personnellement. Voyons un autre exemple qui nous montre ce qui se passera avec les gens de Ninive à la résurrection du grand trône blanc. Simplement dans la page suivante à peu près. Oui, Matthieu 12, versets 41 et 42. Matthieu 12, 41 et 42. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Les gens de Ninive se sont repentis en entendant le prophète Jonas. Imaginez si c'était le Christ qui avait été là. Verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les gens de Ninive et la reine de Séba se lèveront au jour du jugement du grand trône blanc, en même temps que les Juifs de l'époque de Jésus. Et ils se repentiront plus facilement que ceux qui ont rejeté le Christ et son message de l'Évangile. Le Christ va plus loin en disant qu'ils leur feront de solides reproches aux Juifs pour leur entêtement, leur coup raide typique aux Israélites. Et nous faisons partie des Israélites. Il nous arrive parfois d'avoir aussi le coup raide pour leur hypocrisie dans certains cas, leur manque d'écoute et que sais-je d'autre. Voyons un dernier exemple que Jésus a donné concernant les villes, les tribus perdues d'Israël qui refusèrent d'entendre les disciples que Jésus leur envoya. Nous allons nous rendre quelques pages auparavant dans Matthieu 10. Matthieu 10. Nous allons lire les versets 5 à 8 pour débuter. On nous dit ici, « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. » Cela allait venir plus tard avec l'apôtre Paul. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. C'est exactement ce que l'Église fait actuellement. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, le Christ leur avait donné une puissance extraordinaire. La puissance que Dieu donne à l'Église maintenant est différente. Nous pouvons aller à toutes les nations avec l'Internet maintenant aujourd'hui. Versets 14 et 15. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Regardez le verset 15. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Et cela risque de s'appliquer à nos nations qui n'écoutent pas le message prêché par l'Église du Dieu vivant. Oui, ils l'entendent, mais ils ne l'écoutent pas pour se mettre en marche, pour changer. Alors, en résumé, les citoyens de ces anciennes villes qui avaient subi la colère de Dieu en raison de leur méchanceté seront ressuscités par Dieu pour faire l'objet de sa grande miséricorde lors du jugement du grand trône blanc. Le fait qu'ils seront traités moins rigoureusement au jour du jugement signifie qu'ils seront jugés moins sévèrement, car une fois confrontés à la vérité divine, ils la recevront avec joie et leur cœur sera plus facilement repentant. Je souligne en passant que le terme « jugement » ne veut pas dire « condamnation ». Dans ce contexte, une période de jugement, c'est une période de formation, de mise à l'épreuve, de prise de décision. Autant pour les tribus d'Israël qui n'avaient pas le Saint-Esprit de Dieu que pour toutes les nations de la terre qui seront ressuscitées. Dieu va tous les ramener à la vie pour leur faire connaître ses lois, ses fêtes annuelles, ses ordonnances, bref, son mode de vie. Ce n'est que lorsque tous les êtres humains auront eu l'opportunité d'accepter ou de rejeter le salut que viendra le jugement final de Dieu, par l'anéantissement des méchants irréductibles. Après ce jugement, les nouveaux cieux et la nouvelle terre arriveront. Alors s'ouvrira un nouveau chapitre sur le seuil de l'éternité. Poursuivons. Question pour nous maintenant. Serons-nous là pour accueillir notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos confrères de travail qui sont décédés et qui seront ramenés à la vie? Certainement, nous voulons être là pour les guider, les réconforter, leur expliquer la voie de Dieu qui est une bénédiction extraordinaire pour mener une vie heureuse et en santé. Si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons là pour qu'ils entendent notre voix qui leur est familière. Et c'est en même temps une motivation extraordinaire pour persévérer jusqu'à la fin. Maintenant, je voudrais couvrir deux points avant de terminer. Le premier point, combien de temps durera la période du jugement du grand trône blanc? Combien de temps? Et nous allons nous référer maintenant ici à Ésaïe 65. Ésaïe 65. Les versets 20 à 22. Verset 20. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, et ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et vous savez, les arbres, dans certains cas, ça vit assez vieux. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Alors, selon la compréhension que nous avons de ces versets, Dieu allouera une période de 100 ans pour que les gens puissent connaître et pratiquer les voies de Dieu et faire en sorte que leur nom soit inscrit et reste inscrit dans le livre de vie. Le dernier point que j'aimerais aborder, que certaines personnes se posent, est le suivant. Comment notre planète pourrait-elle contenir 50 milliards de personnes ressuscitées ou plus, soit plus de 6 fois le nombre de personnes vivant sur la Terre aujourd'hui? Si on pense à des chiffres comme 50 à 100 milliards, étant des chiffres estimés des gens qui ont vécu depuis Adam et Ève, Bien sûr, le nombre peut varier, mais la question demeure intéressante. Et voici quelques données intéressantes que j'ai arrondies, que vous pourrez retrouver facilement sur le site www.notre-planète.info/terre/chiffre. Vous savez, la superficie totale de la Terre actuellement est environ 510 millions de kilomètres carrés. La superficie des océans, 360 millions de kilomètres carrés. Donc, les océans occupent environ de 70 à 71% de la surface de la Terre. Alors, la superficie des terres émergées est environ 150 millions de kilomètres carrés, soit environ 29% de la surface de la Terre. Mais de ce 29%, environ 33% sont des déserts et un autre 24% sont des zones montagneuses, ce qui laisse un maigre 64 millions de kilomètres carrés pour la population terrestre. Le journal Le Point, en 2016, disait ceci. Une carte réalisée par un site anglais à partir des données de la NASA montre que la moitié des habitants de la Terre, on parle en chiffre d'aujourd'hui, on parlerait de 4 milliards, s'entassent sur 1% de la surface du globe, soit sur 5,1 millions de kilomètres carrés. Vous comprenez que les gens s'entassent dans des villes dans des proportions gigantesques et ça n'a aucun sens. Maintenant, voici la réalité de ce qui va se passer. Lors de la période de 100 ans, les gens ne vivront plus entassés les uns sur les autres parce que Dieu aura effectué de grands changements sur la terre et dans la façon aussi de construire les villes. Il aura fait ça dans le millénium. Et ces gens-là pourront profiter de ces changements-là. Examinons certains des changements physiques que Dieu effectuera en Ésaïe 40, le verset 4. Ésaïe 40 et le verset 4. Verset 4. Que toute vallée soit exaucée, et que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, une grande partie du monde est marquée par des chaînes de montagnes gigantesques qui sont trop hautes et trop imposantes pour être utiles. Ces montagnes seront miraculeusement abaissées à une altitude exploitable. À ce moment-là, les superficies utiles seront augmentées et possiblement qu'une partie des océans aussi seront réduites, donc encore des terres qui vont devenir plus facilement disponibles. Alors, les vallées situées au-dessous du niveau de la mer retrouveront une altitude raisonnable, au-dessus du niveau de la mer. Il y aura toujours la beauté des collines verdoyantes et la variété de la création de Dieu. Moins de zones inutiles comme l'Himalaya, les chaînes de l'Antarctique et des autres Andes. Maintenant, allons dans quelques pages auparavant, dans Ésaïe 35, versets 1 et 2. Ésaïe 35, versets 1 et 2. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel et la magnificence de notre Dieu. Versets 6 et 7. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Voyez-vous, Dieu va changer ces endroits désertiques dans des endroits fertiles. Seulement actuellement, 12,5% des terres émergées de la planète sont utilisées aujourd'hui. Pourquoi? Principalement parce que les déserts ou des zones improductives monopolisent chaque grand continent. Chaque grand continent. Lorsque Dieu rétablira le bon climat, ces régions deviendront propices à une agriculture durable et l'élevage des animaux purs se fera en liberté. Ces changements prendront du temps, mais Dieu et ses saints transformés auront 1000 ans pour préparer chaque centimètre carré pour les multitudes à venir. Après 10 siècles de préparation, des pionniers du gouvernement de Dieu seront organisés et prêts pour le moment culminant de la résurrection d'environ 50 milliards de corps, tous sains et en santé, sains et entiers. Ceux qui auront perdu des membres se verront avec le membre qui manquait. La terre pourra-t-elle contenir tous ces gens? Certainement, avec des villes de taille réduite et les populations bien réparties sur tout le territoire disponible sur la terre. Faites le calcul et vous verrez que les familles ne vont pas se piler sur les pieds. Cela correspond parfaitement à la prophétie de Dieu dans Michée 4:4, et c'est le dernier verset que nous allons voir. Michée 4:4. Encore un verset que nous avons vu à quelques reprises durant la semaine. Michée 4:4. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel désarmé a parlé. Voilà une belle représentation de ce que pourront vivre nos êtres chers. Que ce soit sous une vigne, sous un verger ici au Québec ou ailleurs. Alors nos êtres chers, ressuscités au dernier grand jour, auront cette grande bénédiction. Cette bénédiction merveilleuse à venir pour chaque être humain qui sera présent devant le trône de Dieu à la deuxième résurrection. Que Dieu hâte le retour de Jésus-Christ pour que viennent tous ces jours merveilleux.